Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue au Quai Centre Dramatique National, bienvenue dans la Serre, cet espace un peu atypique qui propose autre chose que ce qui peut se passer dans les salles, et notamment donc aujourd'hui, bienvenue à la rencontre avec François Tanguy, metteur en scène et scénographe notamment du spectacle Item, qui est présenté dans le cadre du Go Festival et qui est encore présenté ce soir à 19h. Et je vous présente également Yannick Butel, qui est dramaturge, critique, professeur en art de la scène à l'université Aix-Marseille et qui est également cofondateur de la revue Insensée Scène. Avant de démarrer cette rencontre, vous peut-être rappeler deux, trois petites choses et François, tu me corrigeras ou tu complèteras évidemment si je dis des âneries ou si j'en oublie, sur le théâtre du Radeau, qui est le théâtre que tu diriges aujourd'hui, le théâtre avec Laurence Chable. Le théâtre du Radeau est né au Mans en 1977, d'ailleurs quand la comédienne, par Laurence Chable, quand la comédienne Laurence Chable réunit un groupe d'acteurs. Et vous en devenez, tu en deviens le metteur en scène en 1982. Très vite, une véritable reconnaissance nationale et internationale est de mise. En 85, la compagnie s'installe sur une ancienne succursale automobile qui va devenir la Fonderie, qui va se nommer la Fonderie en 92. Je citerai pour commencer, avant de poser les premières questions, et donc... Et Yannick Butel sera à mes côtés pour également poser ou compléter ou retraduire ou remanier aussi celle-ci. Avant de poser les premières questions, je citerai le texte qui est en exergue de votre dossier de présentation, mais également du livret de parole, programme qui est distribué, on en reparlera d'ailleurs à l'entrée en salle. Comme les marins, nous sommes de ceux qui doivent transformer leur bateau en pleine mer sans jamais pouvoir le démonter en cale sèche et le remonter avec de meilleurs morceaux. Ce sont des paroles, des lignes extraites de Naufrage avec spectateurs d'Hans Blumenberg. Est-ce qu'elle pourrait définir votre démarche? Vous qui êtes dans un processus rare, qui avez une démarche extrêmement rarissime, qui êtes plutôt dans des constructions de mouvement. On parle de spectacle, mais c'est presque indélicat de dire spectacle, c'est presque faux. Plutôt de construction de mouvement pour ensuite révéler, offrir aux spectateurs quelque chose comme les restes d'après un naufrage. Et le nom d'ailleurs du théâtre du Radeau, bien sûr, est éloquent. Est-ce que ces lignes extraites de Blumenberg que vous mettez en exergue pourraient définir votre démarche? Très bien. Je me tout texte. C'est parce que c'est enregistré.
Oui, alors voilà.
Il marche.
Ah bon. Alors voilà, cet extrait des Fureurs héroïques, ou peut-être, parce que je n'ai pas réussi à le repérer dans le Expulsion de la bête triomphante. Oui. Oui. Parce que oui. Alors voilà, il dit c'est une espèce de dialogue philosophique. Ça passait mieux à la censure à l'époque, quoique, il a cramé quand même. Que chacun compare ce qu'il veut à ce qu'il sait. Ce qu'il veut et sait à ce qu'il peut. Ce qu'il veut, sait et peut, à ce qu'il doit. Ce qu'il veut, sait, peut et doit, à ce qu'il est. Fait, mais en puissance et à temps.
Merci. Est-ce que ça veut dire que c'est indéfinissable ou qu'il ne faut pas le définir, qu'on est plutôt dans le... pour être dans l'être, pas dans le faire plutôt que dans le produit fini. Vous parlez souvent de mouvement, d'ondulation, de flux.
On a remarqué que la vie qui nous est impartie était un petit peu asymptotique. Au début, enfin l'asymptote à l'envers, c'est-à-dire on est excrété, jeté, d'un ventre amphithéotique, Et puis, voilà. Alors, partez à l'aventure. Il y a parfois des bonnes fées, des l'éducation populaire, les colonies de vacances, les manifestations, les appétits de se dire, mais cette vie-là, devant nous, elle est vaste. Et puis, ça commence à se rétrécir un petit peu. Alors, on renverse l'asymptote. Puis là, l'asymptote, ça veut dire que la mort n'existe que relativement à un fait que quand ça s'interrompt, c'est la même chose symétriquement que s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas. S'il y a eu, il y aura. Alors, la résurrection, comme ça, ça c'est très bien, ça appartient à ce domaine qui s'appellerait l'art, sous différentes déclinaisons, la parole, les outils pour labourer, les œuvres de convivialité, les hospitalités, les violences aussi, mais aussi... Et puis il y a cet arrêt de jeu, mais qui avait commencé bien avant que nous apparaissions dans ce monde œuvrant à notre définition, détermination, indétermination, indéfinition... Et puis, non, qu'est-ce que l'on fait? On emporte ou on se laisse emporter dans ces mouvements qu'on appelle en mécanique quantique les processus ondulatoires. C'est très clair. Et l'univers physique, chimique, biologique, l'univers terrien aussi. Parce qu'on est jusqu'à preuve d'autre chose. On ne sait pas bien s'il y a une autre forme de vie telle que nous nous apparaissons, telle que nous simulons que nous paraissons dans d'autres climats. Alors peut-être c'est tout à fait d'autres formes de congestion de vie qui sont aussi incompréhensibles que la Sainte Trinité. Puisqu'il faut leur réserver cet art cultivé par les prototypes humains, enfin de se raconter des fabulations, de s'inventer des généalogies, de se dire on n'est pas apparu, et à chaque fois que quelqu'un d'entre nous apparaît ou disparaît. Ça, c'est beaucoup plus délicat. Parce que quand quelqu'un apparaît, il y a toute l'étendue du champ de vie, il va en croiser d'autres inflexions, d'autres déflexions. Et puis, on lève l'ancre. Est-ce que c'est déterminé? Oui, par la biologie. Mais ce qu'il y a dans cette aura de nos existences, c'est ce rythme des mémoires, des mémorands qui forment l'univers. On ne va pas parler de l'architecture ici, parce qu'elle est un petit peu... Non, mais bon, après tout, si ça résiste encore pendant 10 ans, ils vont repeindre un peu, mais que ce soit une foire aux bestiaux, ce serait peut-être mieux. Mais il n'y a pas... Le sujet critique, il est où? On est appareillé à quel milieu, dans quel monde? C'est délicat, tout ça. Giordano Bruno... demeure incompréhensible. Comment ce type, naissant à Naples, franchit comme ça, et puis voyage à travers toute l'Europe. Alors, il n'y a pas, évidemment, les moyens de transport que nous utilisons et d'où nous exigeons qu'ils aillent encore plus vite. Pour être sûr qu'on a affaire à une détermination du temps qui correspond à l'exécution. Bon, là, on a cette temporalité, à cheval, à pied, en calèche, en carrosse, avec des routes qui n'existent que relativement, passer par bateau. Enfin, il a parcouru toute l'Europe et il s'est fait rattraper par un traître qui lui a vendu un faux papier pour aller à Rome. Un Vénitien qui lui a dit, mais si, embarque-toi. Et puis en fait, ils l'ont... arrêté, puis foutu en tôle pendant 8 ans, torturé, etc. Puis après, il devait avouer. Quoi? Avouer qu'il reniait tout, non pas ce qu'il pensait, mais ce qui semblait être une réalité expérimentalement possible. Expérimentalement possible, c'est-à-dire au lieu d'éprouver des reliquats de gestes qu'il a, il ne l'inventait pas. Bon, il était un petit peu troublion, mais même franchement. Mais cette action de dire où il n'y a pas de portail de la vérité, il y a un certain nombre de faits que l'on constate et qui méritent autant d'attention que de la larve au papillon. De la synthèse biologique des plantes, toutes sortes de choses qui étaient très coincées dans la théologie de l'époque, mais surtout la théologie du pouvoir, qui n'est pas la théologie, qui est la règle doit être celle-ci. Et si on part en interrogeant ces phénomènes et ne les rapportant pas au discours qui les rendent incompossibles avec le réel, avec le phénomène agissant. Bon, il aurait pu aller au-delà, mais on lui a coupé le sifflet, il s'est cramé, enfin il s'est pas fait cramer, enfin il s'est fait cramer, oui. Et il est resté cette fumée. À l'époque, 1600, Galilée, un peu plus tard, il avait déjà fait des... Si, ils sont proches, mais d'une manière différente. L'organisation, là, vous voyez bien que la Terre est plate. Ça se voit d'ailleurs à Angers, puisque ça descend, c'est plat. Hein. Bon, mais rien que cette interrogation stupide de dire, mais non, mais c'est la Terre est ronde, mais surtout elle tourne. Vous pressentez que ça tourne ? Si on appuie tous ensemble à gauche, est-ce qu'on va inverser la courbe pour que ça tourne moins ? Bon, ça, c'est des expériences qu'il faisait, mais depuis et qui ne rentraient pas dans ce mécanisme qui est forgé par une intendance, le pouvoir. Ce que nous faisons au théâtre, c'est aller contre tout ce qui s'assimile à ce qu'on appelle le pouvoir, dans son intendance. Le pouvoir agir, la puissance d'agir, c'est autre chose. Mais le pouvoir de décréter que c'est comme ça qu'il faut voir, et, ou ne pas voir, ou ne, bon, c'est un peu exagéré, parce qu'on va d'un divertissement, pour ceux qui ont assisté à cette lamentable procession, intitulée « Item », qui n'est pas lamentable, on se rend compte que ça n'a aucun rapport avec la mécanique quantique. Quoique. Et alors là, on retrouve les mécanismes le processus d'observer une chose que l'on ne peut pas observer en la touchant, en la mesurant, en l'intégrant. L'univers est courbe. Mais l'univers, pas plastiquement courbe comme ça. C'est l'image qu'on donne quand on dit on balance une balle de, je sais pas, de ping, pas ping-pong, parce qu'il faut que ce soit un peu plus. Une balle de. Enfin, une balle, quoi. Et ça fait un creux. C'est un plasma. Un plasma, mais qui n'a pas de dimension au sens où on se le figure. Il est rectiligne, il est au carré, il est au rectangle, il est en ovale, il est... C'est... Bon, alors déjà ça, c'est un petit peu encombrant de se dire qu'on ne parvient pas, alors que c'est notre univers réel, à se le représenter. Et donc, l'espèce humaine, qui est fabulatoire par nécessité, invente des tas de trucages pour se représenter ces mouvements que l'on ne perçoit pas, ou alors il faut vraiment avoir une tension bouddhistique terrible, quoi. Bon, voilà, ce sont des éléments simples. On ne fait pas des blagues avec des choses il arrive aussi qu'il y ait de la parole, du parlant. Et ça fait partie aussi de ces mouvements qui animent nos corps, d'une part. Et d'autre part, cette parole a été, combien de fois vous dites « ça va » par jour ? Ça va, bonjour, ça va ? La forme ? Bon, ça, c'est vraiment réduit. Hein. Mais des fois, si on étend la chose, bon, combien de fois ça peut nous arriver de voir des gens assis une table de café ou sur un mur, le pied contre le mur, qui parlent ? Mais ils parlent de quoi ? Parce qu'il faut quand même avoir un entretien. Alors, ils parlent de quoi ? Des élastiques, de la voisine qui s'est cassée la gueule dans l'escalier, de la taille d'une bite, on ne sait pas. Mais ils ont l'air vraiment d'être impliqués dans quelque chose. Encore, c'est particulièrement magnifique. Parce que là, il y a une étendue du temps. Et donc, on se dit, mais ils doivent se passer quelque chose presque proche de ces gens en Grèce qui circulaient, les péripatéticiens, c'est la première phase de la philosophie, ils n'arrêtaient pas de marcher autour d'un point fixe. Alors, on appelait ça Enfin, ils avaient plusieurs de façons de dire, ce sont des écoles de parler en marchant. Et là, ça engageait, vous avez lu les dialogues de Platon, Socrate, mais il y en avait d'autres, et les sophistes. Et toujours essayer de se rapprocher d'une chose qui était limite entre le pouvoir, déterminer la zone où on prend domination sur une règle de jeu qui est toujours du côté des dominants, enfin la plupart du temps, et puis de l'autre côté, des vacants, Bon, ben là, ça se situe comme ça, dans cet échange. Alors, pourquoi dire ça ? On ne va pas faire de la philosophie, encore que c'est très joli, la philosophie, c'est philosophier, philo, amour, sophier, se promener. Mais jamais on part de quelque chose qui doit déterminer là cet ouvrage qui porte l'intitulé d'item part sur une promenade écrite, mais une promenade qui n'était pas, je vous vois ça, Robert Walzer, qui est un promeneur. Vous connaissez Robert Walzer ? C'est un Suisse. Donc voilà, détermination 1. Nous avions trouvé vraiment le ballon, on est en Suisse. Et alors la Suisse, c'est vraiment rassurant. Parce que c'est plein de conflits et on ne les voit pas. Mais aller en Suisse, et tout le monde est allé en Suisse. D'ailleurs, tout le monde va en Suisse. Non ? Bon, alors nous, on est déjà en Suisse, et donc on prolonge la Suisse. Et on va de Suisse en Suisse. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Parce que
tu veux réagir, Yannick ?
Dire de la vérité.
Bah, je ne sais pas,
il y a eu plein de choses.
Tu commences par Giordano Bruno et tu finis par la Suisse. Mais la Suisse, c'est peut-être plus grand que la Suisse, justement. Tu vois, comme figure de pouvoir, je me disais que la Suisse a colonisé, finalement, beaucoup plus que son petit territoire. Mais pour Bruno, ça renverrait à une question sur ton théâtre. Bruno, il écrivait, tu sais, aussi en langage codé. C'est un des premiers à utiliser le code. Et il envoie des lettres codées parce qu'effectivement, les travaux qu'il fait ne sont pas forcément compatibles avec le pouvoir. Et comme tu prenais cette figure-là et que tu répondais à Jenny, je me disais, mais est-ce que fabriquer du théâtre aujourd'hui, le tien en l'occurrence, puisqu'on ne va pas parler de celui des autres, est-ce que ça passe effectivement aussi par du codage ? Je me souviens que tu as fait aussi un coda il y a longtemps. Donc coda, codage. Est-ce que quelque part, cette manière de poser le théâtre comme a priori un acte de... Je dis pas de résistance, tu n'as pas dit résistance d'ailleurs, tu as dit opposition ou s'échapper, une manière de s'échapper ? Est-ce que ça passe par ça, un codage?
Oui, je comprends ce que la filtration, mais justement, c'est pas pour te contredire, Yannick, mais il y a une chose que l'on ne supporte pas, c'est le codage. La mise en code. Tout est ouvert et libre de ça. Hein, va encoder ce qu'il veut. Si ça s'appelle encoder, c'est interpréter, c'est une sensation. Il n'y a pas de discours secret. Il est codé, peut-être parce qu'il y a une multitude d'encodés. Là. Avec nos perceptions, nos façons d'agir, de dire, puis on ne comprend rien, ou alors, oh, ça c'est clair, bon, et ainsi de suite. Mais Coda, c'était pas du tout le Coda, c'est
Coda, c'était le titre d'un des précédents spectacles.
Oui, oui, mais Coda, c'est dans la musique, à la fin d'un mouvement, on reprend le thème en le resserrant. Et ça s'appelle la coda en musique. Et on en Bach, Heindel, tout ça, une coda. Et on reprend les éléments structurants. En les ramassant. Bon, comme c'était la fin de nos aventures, j'ai dit, bon, on va faire une coda. Puis, bon, on n'a pas échappé à la règle, on a outrepassé la coda. Alors, ça faisait des ritournelles. Mais on comprend, tu dis, Yannick, c'est quelque chose. Connaissance immédiate, quoi. Quand c'est. Mathurin et Emeline qui rentrent en scène, on suppose qu'ils vont savoir se dire quelque chose, qu'ils vont se relier. Voilà, voilà. Là, bon, c'est... Mais je crois que c'est encore plus simple, puisqu'on est libéré de ce truc-là. Quoi. Oui, d'enchaîner les circonstances. Alors, c'est une autre forme de mise en intrigue. Mais l'intrigue, elle ne suppose pas que nous, on en sait plus que vous. L'intrigue, c'est entre vous. Et ceux qui s'agitent désespérément sur ce plateau patinoire. Et on n'échange pas des services d'informatique. Comment le mouvement passe à travers des multitudes de perceptions. Multitudes, bon, oui. Bah oui, mais de toute façon, quand on... quel est le rapport quand on lit un ouvrage littéraire? On se déplace dedans. Même la preuve, c'est qu'on peut fermer le livre, puis aller à demain. Et on le reprend. Oh, je ne sais plus où j'étais. Bon, on le reprend. Et ça provoque aussi une littérature en mouvement qui s'ajoute aussi, enfin, se dilate. Quand vous entendez un refrain, avec la musique, ta 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 ta, c'est plus difficile, mais ta 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 ta, et alors ça, toute la nuit, ça recommence. Ta 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 ta, et tu n'arrives pas à sortir du canasson. Ou des. Ou alors, un exemple, parce que là, c'était pas intégré dans le. On a rajouté. Pas rajouter, on a pas, non. Suivez la. Froude dit, c'est le Hippolyte dans le roman de Dostoïevski, l'idiot, et il arpente les mots de l'idiot, puis à un moment donné, ça passe à Hippolyte. Hippolyte, c'est un des personnages du roman. Qui dit, voilà, c'est un manifeste, c'est très surprenant. Et il dit, bon, c'est lui qui dit, il veut se suicider, mais pas vraiment. Et puis il ajoute, alors ça, la feuille qui tombe, enfin, c'est pas les mots, mais. Et le petit pan de mur jaune. Bon, il y a un critique, très gentil, qui a dit. C'est vrai.
C'est Jean-Pierre Thibaudat, je crois.
Oui, mais le petit pan de mur jaune, c'est pas dans le texte original de Dostoïevski. C'est dans La recherche du temps perdu où Bergotte, l'écrivain, meurt après avoir, enfin, il descend les escaliers après avoir traversé, monté les escaliers pour aller voir à l'orangerie où, je crois, où c'était une exposition des tableaux de Vermeer. C'était la première fois qu'on présentait au début du siècle, du 20e, les tableaux de Vermeer. Et il y a une, parmi les tableaux, il y a un tableau qui s'appelle La vue de Delft, qui n'est pas très grand. Et il y a effectivement une tache, quelque, un rectangle jaune. Mais où il est le jaune? Où il est le petit pan de mur? Parce qu'en fait, c'est un toit. Mais qui prie, et ils se sont fait chier à regarder, mais où est-ce qu'il est, le petit pan de mur jaune? Et Bergotte a cette illumination, c'est comme ça que je voudrais écrire. Et puis, une attaque cardiaque, qui descend les escaliers, ce qui était arrivé en fait à Marcel Proust, sauf que lui s'en était sorti, il était arrivé jusqu'au fiacre. Et il restait cette phrase, cette chose énigmatique en suspension, le petit pan de mur jaune. Alors, c'est pas, ce n'est pas un emblème de cette énigme, de cette soustraction des éléments, de leur recomposition dans la mémoire, de leur infiltration dans d'autres formes d'agir, cette puissance sensible, puisqu'elle est à égale distance, on ne peut pas dire égale distance, mais, enfin, si, on peut dire, parce que là, le tableau, par exemple, en tout cas du tableau, et puis nous, en face. Donc c'est égal, ça. Enfin, c'est pas égal. C'est un rapport face-face. Quoi. Et quand le regard se soulève, il est aspiré par le phénomène qui soulève le regard. Ça, c'est une des définitions de Walter Benjamin pour dire, essayer de décrire ce qu'il appelle l'aura. L'aura qui soulève le regard. Et peut-être dans le genre de bac à sable où nous jouons, entre gentils partenaires que nous sommes, n'est-ce pas? À part que vous pourriez nous envoyer des tomates, de toute façon, on vous enverrait des flèches. Parce que c'est extrêmement cruel. Et nous, on est implacable. Le nous, c'est pas le nous des artisans de derrière qui supportent pas qu'on leur fasse des vexations. Et il faut respecter une rigueur. Une rigueur, ce n'est pas une domination. C'est, dans ce sens-là, c'est une ouverture. Si on ne veut pas rentrer, ben on est quitte. Mais rentrer dans où? Ben rentrer, c'est le même mouvement asymptotique. Ce qui est agi sur la scène, c'est ce qui est l'énergie, la dynamique optique, sensorielle de ceux qui, sinon il n'y aurait pas de théâtre, on ferait des performances... dessous le tramway qui est en construction, on a fait ça. Donc c'est ce partage aussi de la dénomination improbable. Mais ce n'est pas pour dire que c'est flou. C'est pour ça qu'on dit rigueur, de part et d'autre. Et rigueur, c'est la meilleure définition de la joie. J'arrête de dire bébé.
Rigueur comme meilleure définition de la joie. Moi, il y a plein d'endroits où j'ai envie de réagir. Je ne sais pas très bien comment le faire. Je ne vous cache pas. Mais je voudrais pas t'empêcher, Yannick, non, si tu as...
C'est pas pour te contredire, François.
Ah, vous commencez. Ah, il va y avoir une battle.
Je
ne
me contredis pas. Mais la question du code, ce n'était pas tant la question du secret, mais plutôt de l'encodage. C'est-à-dire... comment on peut retravailler une langue et comment le théâtre, c'est une redisposition de la langue, ce que tu fais.
Un réaménagement.
C'est-à-dire, à chaque fois, c'est une proposition, je dirais, autant plastique qu'esthétique que linguistique, avec des assemblages. Je voudrais savoir comment tu travailles ces assemblages.
Bah moi, c'est un peu ma question sur la structure. Qu'est-ce qui fixe au bout d'un moment quels sont les fixateurs de ces mouvements, de ces ondulations, comment ça s'ensemble, comment la structure elle se fixe à un moment donné.
Tu vois, c'est-à-dire,
bon, on va dire, c'est un processus, pas très bien le mot, mais d'ajustage. Parce que ça vient de toutes sortes de formes, de trames, de présence, tout sous corps agissant, les camarades. Je préférerais, si vous voulez bien, inviter quelques autres de camarades pour voir ce qui, pour écouter ce qui traverse pour eux cette
relation.
Bien
sûr, s'ils le veulent bien, parce que... on va mettre des chaises alors.
Bon, alors.
Mais je ne sais pas si. Ah, ok, tu te dépasses. Mais on a une question sur le rapport aux acteurs, de toute façon. Alors là, le micro est pas.
C'est la question des assemblages. Le metteur en scène comme maître de chez, si tu veux.
Comment ça s'assemble? Comment ça se fixe?
Ben nous, on ne sait pas ça, nous.
Ben non.
Non, en fait, c'est une histoire de temps, surtout, je crois, okay. Du temps. On répète pendant ce long temps. Répéter, oui. Et des mois. Et... ça finit par pousser, voilà, ça finit par creuser quelque chose et quelque chose qui peut se répéter encore. On part vraiment en tâtonnant, en tout cas de notre point de vue. Il semble en tout cas qu'il n'y a pas de, il y a pas de ligne de tracé.
Est-ce qu'on peut parler de l'expression, tant que vous avez le micro, Fredo, ou avec les acteurs, de l'expression de François Tanguy qui est resté au seuil? Il demande à ses acteurs de rester au seuil, de ne pas obstruer.
Alors ?
Sur le seuil, parce que c'est quand même une belle
expression. Je fais la première partie. Je serais... On a donc affaire avec une présence sur un plateau qui éventuellement a des mots à dire. C'est un moment compliqué, crucial, parce que ces mots-là ne veulent pas tout dire. Et on, en tant que comédien, on a un peu tendance à croire que oui. Pour moi, je traduirais en essayant de me prendre le moins de place possible, en fait, et laisser la voie libre à autre chose.
D'être des passeurs, qu'il y a une sorte de transmission
Potentiel, des passeurs potentiels.
L'histoire du seuil, j'ai l'impression que c'est comme si on était des molécules, effectivement, qui, à un moment donné, peuvent s'effacer, mais il faut être là aussi au moment présent. C'est-à-dire que c'est... Et ça fait partie d'une machinerie, mais la machinerie pas dans le sens du tout mécanique du terme. Quoique, justement, dépasser les formes, on n'arrête pas de le faire. Hein. Enfin, on essaye. Je ne sais pas, je parle là de ce qui peut se passer sur 3 secondes de grâce, quelquefois, que je peux sentir légèrement dans l'histoire du seuil, être au seuil. Mais ça ne veut pas dire être absent. Loin de là, en fait. Mais en fait, c'est là où, quand on cherche la profondeur, souvent, on se met la tête dans le mur et on devient lourd. Et on se met en avant de ce que François nous demande et ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas qu'il ne faut pas, mais c'est que si c'est au service de cet onirisme ou de ce lyrisme, de tout ce qu'on a entendu comme parole venant de François, de tout ce qu'on a lu, peut-être de là où il nous envoyait sur des photographies, des peintures, et tout ce temps est tellement important, si ça n'existait pas ce temps-là avant, il n'y aurait pas item. Donc, oui, c'est faire partie de quelque chose. Mais faire partie, mais c'est pas de se cacher dans les coins non plus, quoi, aussi. Donc c'est toujours le paradoxe.
Merci beaucoup, Martine Dupé, qui vient de parler. Vincent.
Oui. Allô. Oui. Alors, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qu'on fait. Donc, mais c'est vrai que avec les paroles, on est vite enfermé dans un sens de quelque chose où on s'entend parler, c'est bizarre et tout ça. Et je me rappelle que pendant les répétitions d'ITEM, on avait fait des premiers essais, c'était des carnets du sous-sol là, au resto. Et c'était vraiment très, très mauvais ce qu'on faisait. Et bon, et après, on a, c'est deux souvenirs que j'ai. Hein, et après, pendant peut-être 2 mois, on n'a rien fait sur scène. On a lu des trucs à table, François a parlé, et on s'est remis à faire des essais, et là, ça fonctionnait. Là, c'était comme si, je ne sais pas, le temps passé à baigner dans quelque chose. Parce que si, je pense à un metteur en scène qui dit, voilà, ça doit ressembler à ceci et cela, on fait ça, ça veut dire ça. Bon, l'acteur va le faire, mais ça ne va pas être intéressant. Il y a quelque chose de l'ordre du cachet qu'il faut faire exister, enfin, qui devient comme palpable. Quoi, et c'est ça qu'on cherche à faire en théâtre, pour moi en tout cas, ouais.
Merci, Eric. Est-ce que Vincent, vous voulez réagir ? Non. C'est oui. Vincent Joly.
Vis-à-vis du seuil, ou, je ne sais pas trop. Parce que j'ai la sensation d'essayer de faire. C'est de ne pas se faire manger par la machination des signifiants qu'on n'arrête pas de déclencher à chaque instant. On n'y arrive pas d'ailleurs forcément souvent, ou on tente. C'est-à-dire d'essayer d'aller un petit peu plus vite. Que se faire avaler soi-même par les signifiants, parce que sinon, on est juste en train de vous montrer. À mon avis, la fréquence de seuil, c'est, pour moi, ça se rapporte à quelque chose comme ça. D'essayer de glisser dessus, on ne peut pas empêcher d'en faire, puisqu'on en fait tout le temps, mais de ne pas s'y attacher, de ne pas essayer de dire aux gens en face, vous avez bien vu ce que je suis en train de vous faire. Et c'est parce que là, on se fait piéger, on se fait avaler par ce genre de. Donc, d'essayer d'avoir cette vitesse d'abandon, d'aller plus vite, quoi. Que ces signaux qu'on envoie. Mais ça, c'est très compliqué. Je trouve. Voilà.
Merci. Merci beaucoup de vous être prêté. Il va récupérer le micro. L'acteur invisible.
Donc nous aussi, on a la question des seuils.
Julienne Rochereau, Lumière.
Ouais. Alors, la question des seuils en lumière, c'est compliqué aussi. c'est le moment où on permet de percevoir quelque chose, mais où c'est comme ce que disent les copains, en fait. C'est en même temps poser quelque chose entre, et en même temps ne pas l'imposer comme sursignifiant, quoi. C'est pas exposer, c'est proposer, c'est vrai qu'il faut être discret, il faut rester discret. Mais c'est éviter d'être démonstratif tout le temps. Et bon, c'est le vocabulaire de François aussi, c'est la monstration et pas la démonstration. Ouais, je sais pas, être léger dans le trait, quoi. Comme les dessins. Je ne sais pas si vous avez vu les dessins qu'il fait, François. Il n'y a pas un trait, il y a plein de traits. Pour une forme, il y a plein de traits. Et du coup, ça permet de créer. Des fois, il y a comme des flous autour, dans les contours, il y a un flou. C'est un seuil de netteté aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Et justement, par rapport à côté ou d'être en plus ou item, je ne sais pas si je peux faire un parallèle par rapport à ça, item, la définition du Larousse est en outre de même. Et j'entends un peu ça dans l'autre interprétation, l'entre, c'est plutôt l'entre. Voilà,
non, item, ça vient du testament de Villon. Oui, Et bon, item, il donne à un tel un bout de drap. Item, il donne à. C'est une espèce de déclinaison comme ça de tous ces. Ce testament. Quoi. On donne à. Alors des fois il fait des blagues parce qu'il y a des connards, alors il leur donne un trou de chiotte. Mais c'est fait dans une langue qui est. Et le item devient une espèce d'appel à l'hospitalité de la langue, y compris quand elle peut être cruelle ou densément tendre. Quelqu'un quitte le sol crétin, quoi. Enfin, il n'était pas mort à ce moment-là, mais il l'invente. Et il passe en revue toutes ses mémoires, tous les gens qu'il a rencontrés, les malotrus, les gens de bonne compagnie, les camarades, les criminels. Et c'est, on pourrait dire que c'est une litanie, mais ça impose aussi une perception, impose justement, ça ne l'inflige pas, un rythme. Un rythme, c'est pas une chose qui revient constamment, parce qu'il bifurque, ça. Et le rythme, le rythmos, c'est cette respiration. Le rythme, c'est pas boum, 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 ou boum, 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 boum. C'est une multitude de jusqu'à l'arythmie. L'arythmie, c'est quand il y a un désaccord entre le circulaire. Et puis l'encyclière. Ça, c'est très important parce qu'en théologie, c'est très sérieux, ça. Et on ne sait pas du tout en quoi cela consiste ou se déconsiste. L'univers rapprochant, identifiant des sortes de personnifications qui peuvent être aussi des images, des voire presque des symboles, mais symboles. Quand on dit par exemple la croix du Christ, là le christianisme a inventé quelque chose de tout à fait stupéfiant, qui est une façon de d'orienter l'axe d'une image. Ça peut être comme ça aussi. Mais il y a un accrochage et un plan, intersection, comme ça, qui fait que l'image s'impose sans même deviner qu'il y a une figure qui est accrochée, qui va chuter, ou tomber, ou s'élever. Et quand on fait des grabouillis, c'est vachement bien, parce qu'on a besoin de faire ça, cloc, puis on a l'impression qu'on fait de la peinture. Et ça va engager la perspective. Parce que si tu couches la croix, elle, c'est comme toutes les stations, comme ça, qui, ça n'indique aucune direction puisqu'il n'y en a pas. L'univers étant global et infini, mais en même temps avec des strates de révélation et de non-révélation. Selon que l'optique... oriente ceux qui sont agenouillés, ceux qui... Enfin, vous allez voir dans les peintures des crucifixions, qui est dans la peinture occidentale, un des motifs les plus flagrants, avec la Madone qui... Bon, ce sont des processus de captation optique et vont organiser plus ou moins jusqu'à devenir ce qu'on avait appelé la perspective. Perspective, c'est regarder à travers. Mais la perspective s'organise selon un point. C'est-à-dire, c'est une asymptote encore. L'asymptote, c'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre l'objet divin. Ça se prolonge à l'infini, mais sans jamais se rejoindre. Et ils organisent donc des plans, des plans successifs pour organiser cette organisation dans l'espace d'un point de vue de fuite qui ne peut pas avoir de solution, en tout cas figurative. Et de l'autre côté, il y a l'icône. L'icône, c'est du côté des
la tradition orthodoxe, où la figure, les icônes, le Christ en général, ou plusieurs, le point de vue, le point de fuite de la perspective est derrière celui qui la regarde. Elle n'est pas dans l'axe de la procession. Et ça, ce sont quand on dit seuil, alors quoi, seuil? Seuil, ça veut dire peut-être franchir le seuil de la porte. Le seuil, c'est ce moment où entre entrer et sortir, bon, ça c'est une chose, mais seuil en allemand c'est Schwellen, c'est ce qui gonfle, et c'est comme c'est une respiration, Schwellen, une respiration qui n'est ni, une respiration, une valve, un sas, mais qui n'est pas enclos. Il veut que si on va avec une affirmation ou une démonstration, on n'entend plus cette vibration du seuil. Ce qui n'existe pas comme ça, comme on dirait, il y a du mauve, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du vert. Il y en a. Mais là, pour reprendre ce que Yannick disait, l'assemblage, c'est pas de la chimiothérapie, hein, c'est pas de la mécanique des fluides non plus, mais c'est pas la mécanique des solides non plus. Et pourtant, ça nous travaille. Parce qu'à chaque instant de nos, ou chaque, pour autant qu'on en ait une sorte de conscience, enfin, une perception, disons, ça se meut. Et ça se meut tout le temps, bon, d'accord. Mais dans l'endroit, le moment scénique, le moment théâtral, disons, cette unité relative du temps et de l'espace, ça fait penser d'ailleurs à l'expression de Friedrich Hölderlin, à la limite extrême de la déchirure, ne reste le temps et l'espace. Il est considéré comme étant un peu cinglé à ce moment-là, mais à la limite extrême de la déchirure reste le temps et l'espace. Et ça, bon, c'est compréhensible dans la syntaxe, mais c'est pas énigmatique non plus. C'est que cet univers enveloppant et développant de ces enveloppes successives et de ce développement, comme la moindre des petites sensations qu'on peut... Alors, bon, pour revenir à l'espace scénique. L'espace scénique, il comprend l'ensemble de ceux qui s'y trouvent dans l'espace. Ce n'est pas les acteurs qui jouent la trompette et puis les spectateurs qui attendent. Alors, c'est quoi la fin de l'histoire? Parce qu'on commence à se faire ennuyer. C'est quoi le déterminant? Eh bien, c'est cet espace-temps-là. Et on ne peut ni d'un côté ni de l'autre si on est attentif et honnête. Dire pourquoi vous êtes là, un spectateur? Pourquoi nous sommes là, acteurs? Bon, acteur, ça peut être... Bon, on a fait vachement de travail. Là, vous ne pourriez pas nous donner un peu de balle parce qu'il faut... Et puis, peu de balle parce que le spectateur dit « Mais on n'a pas eu ce qu'on a payé. » Par exemple, réclamation à la sortie. Non, c'est dégueulasse, c'est de l'imposture, c'est pas ce qui était écrit dans le programme. Ou c'est pas ce qu'on attendait de voir, et ainsi de suite. Il y a ce parallèle de... Alors, c'est pas une fusion, c'est pas une confusion, c'est pas une séance de je sais pas quoi, de psychothérapie, de groupe. C'est juste pointer dans ce dispositif qui est arbitraire d'une certaine façon. On peut dire face à face, parce que même si c'est en quadrifrontal, c'est pareil.
Les corps communs ?
Non, mais non, parce que les corps communs, c'est comme de la savonnette, quoi. Il y a un corps divisé en autant de divisions communes, voulant dire que c'est dans le même espace-temps. Mais il n'y a pas de fusion. C'est pas, ah là là, à la messe, ça peut exister, mais il faut vraiment s'y prendre de bonne heure, quoi. Et puis, il n'y a pas de distribution d'hosties. Hein,
il y a distribution de sortie. C'était Rudo. Puis quand on est sorti, qu'est-ce que l'on a éprouvé? Cet instant-là, cet instant qui se développe en une quantité de temps, peut-être. Parce que je sens la question arriver. Alors, comment on finit le... Pourquoi ça s'arrête là? C'est vrai, il y a un coup de vache là dans Item. On croit que ça va s'éteindre. Oh merde, il recommence. Bon, c'est bref. Hein. Parce que là, on rejoint aussi la fable du début. C'est le prologue au ciel de Goethe, où Dieu et Méphistophélès font un pari sur la spéciation humaine. Alors là, évidemment, c'est complètement didactique. Mais c'est pas de notre faute, c'est Goethe qui l'a écrit. Et il y a cette espèce de fanfaronnade autour d'un dispositif qui est quand même humainement étranglant. Donc on ne serait que des jetons d'un pari. Nous, toute cette espèce confondue. Bon, ça, c'est la relation fabulatoire. Mais comme elle est inscrite dans le génotype mémorant de nos... C'est emmerdant de pas trouver ça un peu intriguant. Alors on va retrouver dans l'assemblage.
Il a son micro, Yannick. Non, je t'écoute. Je me disais, mais alors si c'est... Enfin, je sais pas, j'écoute et je me dis, ça doit...
Le micro plus près.
Ouais. Non, c'est bon, là.
Là, parfait.
Ouais, non. Là, j'ai l'habitude, mais parce que cette question du seuil, de l'assemblage, du mouvement, ça me fait penser à un truc qui serait que peut-être tu t'éloignerais d'un théâtre de la représentation pour être plutôt dans un théâtre de la présentation, c'est-à-dire peut-être tout le temps dans une... Tout à l'heure, Freud disait un tâtonnement, peut-être une tentative, c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne s'arrête pas du coup. Tu sais, il y a ce tableau du 18e siècle d'un anonyme où on montre un être comme ça qui marche mais qui est dans une bascule vers l'avant et qui fait que on ne sait pas s'il tombe ou s'il va continuer de marcher ou si ça ne s'arrête pas. Je veux dire, peut-être c'est ça l'intérêt de la chose d'Item, c'est que ça ne s'arrête pas. Si, ça s'arrête pour le spectateur à l'endroit où tu l'arrêtes, mais peut-être ça ne s'arrête pas pour lui.
D'ailleurs, parce que tu parlais d'assemblage. Tu... Bon, par exemple, en chimie, l'assemblage, parce que Yannick a expliqué que ce matin, il a eu une illumination, c'est comme la construction d'un vin, quoi. D'un vin, d'un morceau de pinard, quoi. Et jusqu'à ce que l'assemblage aille au seuil, ou un parfum. Par exemple, il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent se mêler. Et si, alors le seuil, c'est justement que ça laisse ouvert l'odorat, le goût, le senteur. Ça laisse ouvert au lieu de le refermer sur un, enfin, vous voyez bien, quoi. Si on vendait des paquets de merde en disant que c'est du parfum, c'est le numéro 5 de Chanel, ça marcherait pas tout à fait, quoi. Mais ça dépend aussi de où est-ce qu'on désigne, enfin, la sensibilité commune ou différente va avoir cette sensation que, enfin, dans la publicité, c'est comme ça qu'ils disent, vous allez être ouvert. Bon, là, il ne s'agit pas de ça, évidemment. Mais c'est bon, on va dire, mais pourquoi vous faites ça? Parce que d'abord on sait rien faire d'autre et en plus on le fait mal. Alors bon, comme ça donne un peu d'espérer de faire un peu mieux. Ça veut rien dire d'ailleurs dans un certain sens. Nous on le ressent quand c'est vraiment c'est de pire en pire. C'est-à-dire que quand ça se sclérose et qu'il s'agit hélas quand ça déconne. De passer dans le registre des... avez-vous vu passer le furet? hein, ou les trucs comme ça, quoi. C'était joli, et puis d'un seul coup, ça se. Monet a peint à peu près 18 nymphéas. Et Charles Péguy dit dans un compte. C'est le premier ou c'est le 18e qui est le mieux? Et en plus, quand Bonnet monte pour peindre ces immenses, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu en vrai, les nymphéas, c'est gigantesque. Et il était aveugle, arthrite, et deux cannes, monté reculé, sans se casser la gueule, et n'y voit rien, puisqu'il n'y voit rien. Et pourtant, tout est une exactitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délai? Eh bien, c'est ça aussi une question de seuil. Bon, maintenant, il ne faut pas tout verser en disant, voilà, vous allez avoir une expérience authentique de seuil. Pas vrai. C'est simplement selon que l'on... avec y compris tout ce que ça se balance de répulsion, d'ennui, de « oh là là, il pourrait aller plus vite bon, », bon, ça va, on a compris. Mais ça, c'est le partage commun. Ça, c'est, on ne peut pas... Et puis on n'est pas... Des fois, on n'est pas fier de ce que... Enfin, je pense aux camarades. Oh merde, oh zut, oh, j'ai senti glisser, puis je pouvais pas m'arrêter, et c'était parti, voilà, j'étais en plâtras. Bon, c'était. Mais après tout, on pourrait dire que c'est fait exprès. Alors, ça, c'est le double du double. La duplicité qui fait croire que quand des mouvements sont exécutés, semble-t-il, à la perfection possible, tout le reste, le tout venant, va avec. Mais c'est une bagarre joyeuse, soyeuse, en admettant, quoique il y ait des moments, enfin nos camarades, je l'ai vu venir, puis impossible d'arrêter le truc. Voilà, ça c'est aussi, quand Froude parlait de répétition, on ne répète pas des trucs, puisqu'on les invente au fur et à mesure qu'ils se répétant, s'agrègent. Mais on ne peut pas dire qu'une fois qu'on l'a vu passer, eh ben, immédiatement il suffit d'ouvrir la fenêtre, enfin, le clapet, puis cloup. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les mouvements sont capillaires. Alors on va dire, oh là là, vous exagérez, c'est quand même faire une sensation entre A et B qui soit plus proche de la sensation de A que de B. C'est une blague de Wittgenstein qui faisait des comparaisons forcées, quoi. Alors disons, la vache, qu'est-ce que ça veut dire que de dire ben, on peut le faire. Le premier crétin ou crétine qui dit je peux le faire, celui-là, il va se balader à la flotte pour s'éponger un peu. Parce que ça ne veut absolument strictement rien dire. En menuiserie, ça peut se comprendre. Et c'est pas pour dire que l'art du bon, mais c'est que les corps sont mutants dans la phase vivante scénique. Sinon, c'est des robots qui répètent la même chose. Alors, en passant à travers tous ces filtres, est évident, enfin pas évident d'ailleurs, mais que et surtout jouant avec cette aparité. C'est même pas une histoire de dire ben aujourd'hui j'ai la chiasse, je suis mal luné, oh puis zut, je me sens pas bien, pouf, on va enfiler les perles. C'est pas ça. C'est avec la meilleure bonne concentration, un seul coup, plat paralysé, parce que le filtre il a changé. D'ailleurs, d'aller d'espace en espace, d'un lieu de représentation à un autre, d'un théâtre à un autre. On travaille dans une tente. Enfin, une grande tente qui fait. Et elle est complètement poreuse, on entend les bruits des oiseaux, des machins, et puis on l'a trimballé pendant 15 ans, ça, ce truc-là. On partait dans les mêmes. Dans des agglomérations urbaines, on entendait les bagnoles, les mobilettes, etc. Et tout ça, ça rentrait. Alors, évidemment, c'était embêtant. Quand on se retrouve dans des. Là, c'est pas le cas. Mais il est arrivé dans des endroits vachement bien, etc. Et d'un seul coup, la voix, tu la prononçais, la voix, et elle tombait par terre. Par terre. Alors là, c'est... Bon, bah, pardon.
Non, pas pardon. Et pardon de, d'avoir l'air d'eux. Je... Non, j'avais envie de... Même si il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir, je vois aussi le l'heure qui file et j'aimerais bien pouvoir vous passer aussi la parole, peut-être, à un moment. Ah bah on fait ça tout de suite alors, très bien. Parce que j'avais envie de parler de du lieu quand même aussi que tu nous... ou peut-être après, alors, de la fonderie, parce que c'est pas qu'un lieu de qui a, c'est pas qu'un lieu de création pour la compagnie. Et justement, la tente dont tu parlais à l'instant a été notamment disposée, mise en place pour pouvoir laisser le lieu initial, le lieu de la fonderie, en période de, quand vous êtes, vous, en création, en répétition, pour pouvoir laisser le lieu de la fonderie à d'autres compagnies. Donc, il y a quand même une vraie notion de partage de, et d'ouverture. Et sur ce lieu, c'est quand même un lieu... voilà, je pense aux jeunes gens qui sont pas mal en art du spectacle ici aussi. Et c'est quand même un lieu incroyable et assez rare. Et voilà, j'avais aussi envie que tu... Éventuellement, que tu nous parles de ce lieu, comment il fonctionne. Je crois qu'il y a des chambres, on peut... Tout est ouvert, quoi. Tout est possible pour des compagnies ou des gestes pour venir...
C'est, voilà, pour être bref, c'était un ancien garage, un annexe de l'usine Renault, qui était une usine très, très, très importante. Ils ont réduit les effectifs maintenant. Et puis, ils avaient un garage en plein centre-ville, quasiment, enfin, énorme. C'est là où partaient les 24 heures du Mans avec les bolides. Et puis, ils réparaient tout. Les... Mais c'était très, très vaste. Bon, il n'y avait pas de mur. Rien, parce que circuler... Et puis, à un moment donné, ils ont construit... la ville l'a racheté pour en faire les lieux des services techniques de la ville et de la communauté urbaine. Puis, à un moment donné, ils ont refait un bâtiment beaucoup plus accessible, parce que c'est quand même pour les camions, les machins, les rentrées, les sorties, et plus moderne. Et donc, il est resté ce truc. Donc, ils nous avaient proposé de prendre une petite parcelle pour y mettre, y loger les activités du théâtre du Radeau. Et donc, une petite enceinte, des murs qui tenaient. Et puis après, ben, ils vidaient. Ils avaient un projet. Et puis après, on a commencé à squatter. Ouvertement. Hein. On a dit, voilà... On met des planches. Alors, le principe de squatter, c'est de poser ça par terre. Mais c'est 6000 mètres carrés. Hein. Et en mettant, et puis progressivement, des murs pour essayer de ne pas avoir une espèce d'étendue. Bon, et puis, il y avait des bureaux à l'étage. Une coupole, des 17 bureaux, hein, puisque c'était la régie Renault, qu'on a transformé en chambre, bon, avec des intermédiaires, bon, c'est sous. Et puis on l'a fait dans l'esprit communiste, n'est-ce pas, hein, de partager tout ce qui est partageable. De pouvoir dormir, manger, il y a deux réfectoires, une cantine, et puis l'usage des plateaux, dont à l'extrémité, au fond, une caisse à musique, qu'on a fait... parce qu'on avait rencontré Archie Shepp à l'issue d'un concert, et puis qu'il était venu à la fonderie, puis pendant une nuit, on a fait de la musique, et puis il disait, mais c'est vraiment, vraiment tragique, t'es pas un endroit où transmettre la musique. Et 4 ans après, il a inauguré sa caisse à musique. Bon, ça c'est pour aider tous les parcours. Et puis, en 97, les travaux étaient quand même commencés. On a acheté une grande tente. C'est une tente comme on voit dans les foires, quoi, pour le livre. Ça a l'air un peu surélevé, 4 mètres au poteau, 30 mètres de profondeur, 20 mètres de large. Et on la montait et démontait. Au rythme des... Parce que du coup, à ce moment-là, à partir de là, tous les spectacles, enfin tout ce que l'on faisait, se passait avec... Donc il y avait une profondeur, évidemment, qui ne rentre pas dans 10 mètres sur 10, qui est la moyenne dans les théâtres. Là, ça fait 14 mètres sur 15, c'est mieux. Là, il n'y a pas de limite. Mais ça demandait quand même... Et puis, ça s'est implanté à la périphérie du Mans, mais pas trop loin, dans un espèce de champ, en pente. Et c'est là que, depuis 7 ans maintenant qu'on n'a pas bougé, Depuis tout le temps, d'ailleurs, depuis 1997, on ne faisait que travailler dans cette... pour libérer l'espace à la fonderie. Et que la fonderie puisse être le lieu qui permette à des expérimentations de toute nature, théâtrale, chorégraphique, plastique, cinématographique, avec ce rythme-là, manger, dormir et travailler. Et sans aucune, on peut travailler la nuit, n'importe quand. Simplement, les gens sont responsables de ce qu'ils y font. Quoi. S'ils foutent le feu, voilà, c'est ça. Donc la fonderie, c'est fait.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est assez magnifique, assez incroyable.
Et alors, voilà. Vous ne voulez pas nous raconter des trucs? Ça, c'est casse-couille. C'est ce que tu dis, hein, c'est pas la question. Mais c'est... Bon, par exemple, là, le mouvement qu'on est en train d'essayer d'enclencher porte le titre, l'intitulé « Par autant ». C'est un vent, comme le Mistral, l'OTAN, et puis le troisième, j'ai oublié, « Par autant ». Bon, et ça, c'était parce qu'on était à Montpellier, entre les deux couvre-feux. Par autant, voilà. C'est la première fois qu'il est intitulé « Par avant ». Donc ça correspond à rien, puisqu'on va poursuivre le courant du vent, puisqu'on ne sait même pas ce que c'est. Item, c'est arrivé parce que bon, la plupart du temps, c'est les gens qui nous ont la bonté de nous accueillir. Là, on va entrer dans la programmation. Donc il n'y a pas un intitulé. Alors, par exemple, il y avait la bataille de Tagliamento. François Lepilouer dit oh non, mais enfin, quand même, un titre. C'était même pas. Enfin, c'était. Et puis, dans le journal de Kafka, le truc était ouvert à le récit d'un rêve, la bataille de Tagliamento. Moi, je lui dis voilà, c'est ça, c'est le titre, la bataille de Tagliamento. Ou la bataille. Et finalement, c'était curieux parce que ça n'identifiait pas ce dont le fragment de Kafka pouvait. Mais en même temps, il y avait des choses curieuses. Les titres, c'est très très ambigu. Mais tu disais, c'est le point de départ. C'est si tu dis Macduff contre Macbeth, ça en pige, quoi. Même si ça raconte les histoires de Zizi et Pépette au Far West. Ça a l'air, bon. Enfin, c'est complètement idiot de dire les choses comme ça, c'est aussi à la rencontre. Robert Walser, par exemple, je dis ça parce que j'étais allé voir Claude Régis, qui était un ami, et il dit oh là là, t'apprends un petit poème. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je lui disais ça, puisque ça ne part pas de quelque chose de. Enfin, en tout cas, nominatif. Et il dit mais tu as lu Robert Walser? Non, c'était il y a 15 ans. Hein. Et puis Sarah Ken. Alors Sarah Ken, j'ai dévissé parce que oh là, c'est trop violent. Mais c'est resté. Et puis Robert Walser est venu comme ça, en lisant. Et du coup, c'est pas du tout mettre en jeu un objet littéraire. C'est passer à travers un corps, qui n'était pas celui de Robert Walser, mais un corps, c'est-à-dire aussi une fréquence de Et là, Vincent pourrait nous en raconter, parce que quand on a lu la première fois, pas la première fois, mais une fois comme ça, ce qui déclenche d'ailleurs le mouvement d'Item,
Se glisser, on ne peut pas dire que c'est... En tout cas, le corps littéraire, on appelle ça comme ça, c'est un corps aussi matériel. Il a une physique. Et donc, ce n'est pas pour raconter des histoires ou faire une citation. Ça engage à chaque fois un rythme différent. Là, dans les thèmes, on repasse. C'est arrivé quelques fois, d'ailleurs, dans les précédents mouvement à travers des structures des romans de Dostoïevski, parce qu'il y a des accélérations, mais du coup là on pourrait dire c'est pour vous rapprocher du faire théâtre, parce qu'il y a du dialoguisme qui part à toute vitesse, pour montrer que vous savez aussi faire ça. Non, d'abord on ne sait pas le faire, enfin on s'en fiche de cette manière là d'observer les choses, mais tous ces mouvements sont des mouvements qui se déclinent comme le petit pan de mur jaune. A-t-il moins ou plus d'importance que la déclamation d'Hippolyte ? C'est pas un problème d'ailleurs d'égaliser tout, non. C'est le singulier qui passe à travers toutes ces formations et qui sont pas pour autant des formulaires, quoi. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué parce que on reprocherait presque, mais c'est que du texte maintenant. Enfin, parce qu'il y avait une réputation il y a 30 ans, une réputation où on disait rien. Enfin, on disait, mais c'était une espèce de voilerie en langue reconstruite, comme ça, sur les besoins, puisqu'on pouvait pas tout dire. Si on disait quelque chose, ça veut dire que ça inclinait sur l'orientation sémantique de ce qui était en train d'être dit. Puis, dans des développements qui ne pouvaient pas accueillir cette vitesse-là. Sinon, il fallait qu'elle rampe. Alors, ça a commencé un petit peu avec la bataille du Tagliamento, par la rencontre avec Charles Péguy. Mais on l'a fait un trucage, quoi. Enfin, pas un trucage, je dis des bêtises. On a commencé par lire Charles Péguy dans les coulisses, enfin, un fragment d'une œuvre qui s'appelle 20e élégie contre les bûcherons de la même forêt, qui est une immense déclinaison comme ça, espèce de fragment, et qui était traduit en allemand alors que Patrick ne parlait allemand, mais ne pouvait pas traduire à la vitesse. Alors ça faisait un an comme ça, hein, et puis ça se répercutait. Donc de quoi s'agit-il ? Traduire ce qu'on entendait dans les coulisses, traduit en allemand qui a été rafistolé mieux. Et puis après, il y avait d'autres. Bon, c'est ça, c'est la circulation des langues. Mais ça dépend du format, du format de l'espace, du format aussi qui s'agrège autour du temps et de l'espace. Et malgré qu'on ait fait comme l'aventure avec le théâtre du Radeau a commencé par un atelier autour de Don Juan, et on a joué Don Juan dans le texte jusqu'au bout. Wojciech, voilà, c'était un petit peu Wojciech, c'était donc la pièce de Büchner, la pièce qui n'existait pas. C'était des fragments, enfin des manuscrits, il est mort avant, qui avaient été reconstruits par Adamov et quelques-uns, donc ils donnaient une structure, on avait eu accès aux documents qui étaient publiés en RDA de l'ensemble des manuscrits. Et Madi a traduit littéralement, mais enfin au plus près, l'ensemble de tous les manuscrits. Donc ça veut dire que de manuscrits A, B, C, Marie avait le temps de mourir trois fois, quoi. Puisque on suivait la courbe du manuscrit. Évidemment, dramaturgiquement, c'était pas terrible pour un scénario qui se conclut par. Enfin, une évolution, une détermination. Mais tout était dit clairement. Enfin, quoique, pas d'une manière exclamative, quoi. Alors,
Et puis, c'est arrivé comme ça, en déplaçant aussi les meubles, l'espace-temps, en ouvrant des trucs. Il a semblé que la parole, agissant à travers les corps, ne pouvait pas être l'objet d'une indétermination. Quoi. Même si peut-être des gens peuvent avoir l'impression qu'on colle des trucs à n'importe comment. Puis, bon, là, on peut vous le dire. Hein. Ça commence Minotaure, labyrinthe, chevalier, portrait, condamné à mort, paradis. Une structure d'une perfection dramaturgique. C'est pas vrai?
Est-ce que vous avez d'autres réactions ou questions? J'ai entendu dire qu'il y avait un petit groupe, ils sont peut-être pas là, Geneviève, je sais pas. Mais après, je veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Qu'il y avait un petit groupe qui était en art du spectacle, je crois, mais je suis pas sûre, qui avait l'intention de prendre la parole et de restituer ce qu'ils avaient perçu du spectacle. Mais je veux pas imposer quoi que ce soit. Tu les vois pas. Bon, bah voilà, ils sont pas là. Ah si, mais je veux pas. Merci. Peut-être que tu veux faire le travail par la suite. Question de temporalité ou du songe ou du souvenir. Ouais. Est-ce que d'autres... Bah, merci beaucoup. Tu veux avoir le mot de la fin, peut-être?
C'est à Yannick de faire le...
Yannick fait une conclusion, hein. Yannick fait une conclusion.
Je rajoute simplement avant qu'Yannick fasse un plongeon. Et que Jean-Pierre fasse un replongeon. Ça, c'est des amitiés indestructibles et on comprend pourquoi. Le rapport qu'il y a entre la représentation, la présentation, le théâtre, c'est normal, l'objet scénique, et le rêve, quand on dit ben, c'est, on ne comprend pas, c'est passe d'un truc à l'autre, ben, le rêve, c'est quand même une activité qui nous occupe la moitié du temps de notre vie, peut-être des fois plus, et on se demande par quel raccord et quelle connexion ça nous arrive, à moins qu'on pense que c'est Netflix qui, par un dispositif connecté, nous envoie des saloperies. Bon, c'est tout à fait possible. Il y a une phrase de Deleuze qui dit « Ne rentre jamais dans le rêve de l'autre. » Et ça fout les jetons. Hein. Or, ceci n'est pas un rêve. C'est une action concrète que l'est aussi le rêve. Mais ça n'est pas un mime de ce qui est autorisé dans le rêve et qu'il ne serait pas dans une circulation... dramaturgiquement, rationnellement, c'est une construction où les angles sont aigus parce qu'ils se collisionnent entre eux et se superposent pour tenter de nous délivrer du cauchemar, du rêve comme une espèce de dépendance alternative à... alors, je ne parle pas des éléphants roses, évidemment, c'est trop facile, mais ou des états de flottement comme ça, c'est très agréable des fois, mais il n'y a aucun rapport. Il y a un rapport, si, un rapport moléculairement critique. Comment cela nous arrive dans les divisions de l'activité mentale, consciente ou inconsciente, etc., d'être mobilisé, démobilisé aussi par des courants dont on se demande, quand on se retrouve à l'état de veille, si on les a rêvés, quand il arrive aussi que dans les états de veille, c'est-à-dire de réveil, du réel éveillé, parfois les dimensions de connexion et de rapport entre des choses nous semblent complètement insurmontables. Donc là, cette analogie, elle est aussi... pour reprendre la métaphore de Yannick, elle est œnologique. C'est plutôt un assemblage de pif-pif.
Yannick, alors je crois que...
Donc c'est là que je fais un saut périlleux et que je te repasse la parole après, Jean-Pierre. Ben, je sais pas, tu parles de rêve, et du coup, oui, il y a au moins deux formes de rêve. Il y a le rêve, celui qu'on fait la nuit, le nocturne, et puis il y a le rêve diurne. Et je crois que c'est Ernst Bloch, qui était un penseur de l'utopie, qui privilégiait le rêve diurne, c'est-à-dire le rêve que l'on fait éveiller. À savoir que... Alors bon, je vais prendre la parole, puisque tu la reprends pas. Donc là, maintenant, c'est libre cours. Hein. Donc... J'ai l'impression que le théâtre de François Tanguy, en tout cas pour le spectateur que je suis, ce serait de nous faire rêver éveillés et de nous mettre du côté peut-être des utopies, parce que finalement, dans ton propos, on entendait aussi que ce qui nous environne, ou ce qui nous entoure, ou ce qui nous enveloppe et nous contraint, nous laisse pas beaucoup de place pour le rêve. Et peut-être que voir item, c'est ça, ça serait se mettre un peu à rêver. Voilà. Et là, je me suis bien ramassé.
Non, c'est bien.
Au sens où,
puis c'est
où
les premiers mots,
j'ai bien condensé les choses. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire que pour autant qu'on a parlé de physique quantique, il y avait je crois un antique, Lucrèce, qui parlait des atomes. Il s'inquiétait de savoir que ce monde qui tourne si rond, quoi. Les atomes, enfin, regardez la Terre, regardez le cycle de la nature, tout était vraiment tellement bien organisé que ça revient sans arrêt. Et il avait inventé un atome qui pointait et qui soulignait le fait que tout d'un coup, justement, ce qui est circulaire ou ce qui est en cyclique aussi, je veux dire, pouvait tout d'un coup se barrer, enfin, faire un quartade. Et il avait appelé ça un clinamen. C'est Lucrèce. Lucrèce est le clinamen dans la nature des choses. Ben, je crois que c'est ça qui m'intéresse quand je vais au radeau. C'est de voir comment ça fait des clinamens.